Alors bonjour, nous voici réunis pour cette rencontre avec Jean-Philippe Uzan. C'est lui. Jean-Philippe Uzan était un physicien et physicien théoricien. Il est plutôt spécialiste de cosmologie. Il travaille au CNRS, à l'Institut, il est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et il est aussi directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'Institut Henri Poincaré, le directeur de l'Institut Henri Poincaré, c'est Cédric Villani. Comme ça, ça vous dit... Vous ne savez toujours pas ce que c'est l'Institut Henri Poincaré, mais vous savez qui est Cédric Villani, peut-être.
Donc, voilà. C'est le type qui est dans l'ombre.
C'est le type qui est dans l'ombre de Cédric Villani. Voilà. Qui est là et qui fait tout ce que Villani ne fait pas toujours, parce qu'il est à fond la caisse d'un milliard de projets. Donc, Jean-Philippe Uzan, aujourd'hui, est venu nous parler d'un thème qui, évidemment, intéresse la science, ça va sans dire. D'un thème qui intéresse aussi la science-fiction, ça va sans dire, de l'univers. D'une certaine façon, l'univers existe-t-il? Et il faudrait encore préciser les termes de la question. Qu'est-ce que l'univers? Et pour commencer la discussion, on va faire peut-être une quarantaine de minutes de discussion, puis comme ça, il y aura une vingtaine de minutes pour les questions de l'Assemblée nombreuses. Finalement, avant de parler de l'univers, de la façon dont il est structuré, de la façon dont on comprend qu'il est structuré, finalement, quel est ou plutôt l'ambition d'un physicien théoricien n'est-elle pas d'abord d'essayer de comprendre ce qu'est la réalité, la réalité physique, la réalité du monde? Comment s'y prend-il? Et est-ce bien la bonne question, d'une façon? Est-ce que c'est bien ça votre ambition à vous, Jean-Philippe Uzan?
Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci Roland pour l'invitation, pour me faire repasser mon bac philo en public sans préparation, c'est sympa. Donc on va essayer de répondre à ce genre de questions. Donc c'est vrai que si vous avez fait des études et que vous avez fait un peu de physique, que ce soit au lycée ou à la fac, c'est une discipline qui est enseignée comme une discipline scientifique. Absolument. Une discipline assez technique. On a l'impression qu'on a des lois et puis qu'on résout des exercices et qu'on arrive à répondre à des questions. Et ça, c'est une partie de la physique qui est très très importante, puisque c'est celle qui fait qu'on a tous les objets qui sont autour de nous, qu'on comprend le fonctionnement, qu'on construit des ponts, qu'on fait tout ça, c'est fondamental. Mais la physique... personnellement, quand j'étais en classe prépa, j'étais assez étonné par ce qu'on apprenait, et en particulier au moment où on apprend l'électromagnétisme. Alors l'électromagnétisme, c'est ce qui décrit les théories de la physique qui décrivent l'électricité, les champs magnétiques, la lumière. Et on nous enseigne les équations de Maxwell, donc on nous écrit ces équations-là, donc qui ont été découvertes, établies par James Clerk Maxwell au 19e siècle. Et puis on apprend à résoudre plein de problèmes avec. Et la question à laquelle on ne répond jamais, c'est comment est-ce qu'il a fait Maxwell pour trouver ces équations? Qui pour moi était la question la plus fondamentale, parce que je n'étais pas tellement intéressé par trouver des solutions à des équations qui existaient. Moi, j'aurais bien aimé découvrir une équation. Et on ne vous apprend pas à l'école comment découvrir une équation. Et quand on grandit un petit peu et qu'on fait des études un peu supérieures, on se dit, mais finalement, pour comprendre comment on découvre des équations, il faut aller faire un peu d'histoire des sciences et de se comprendre finalement c'est quoi cette discipline, la physique? Comment elle s'articule avec les autres domaines de la connaissance?
C'est quoi son but, finalement? C'est quoi son sujet?
C'est quoi son sujet? Et puis, dans l'histoire de la physique, on ne va pas reprendre toute l'histoire de la physique, mais il y a quand même un certain nombre de grands penseurs, et puis on réalise que, par exemple, à l'époque de Newton, Newton ne disait pas qu'il était physicien, il disait qu'il était philosophe naturel. Et ça, ça m'a marqué, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai qu'il y a une relation très, très importante entre la physique, l'étude du monde qui nous entoure, et la philosophie, puisque finalement, on va adopter une certaine démarche, qu'on appelle la démarche scientifique, qui est difficile à définir, parce que je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que tous les gens qui se décrètent être scientifiques sont d'accord sur ce que c'est que la démarche scientifique. Donc là aussi, il y a une sorte de flou, mais dont le but est d'établir des savoirs qui sont indépendants de la personne qui établit ces savoirs et qui peuvent être vérifiés par d'autres personnes. C'est en gros ça le but fondamental.
C'est une démarche collective, c'est-à-dire que quand même la science, c'est une démarche collective. C'est pas ça. Une démarche individuelle d'un individu dans son coin qui aura un éclair de génie qui dit voilà, le monde est comme ça. Il y a quand même l'idée d'une collectivité qui essaie d'établir rationnellement.
C'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une démarche collective. Après, chaque individu va se poser des questions. Il va arriver avec une certaine envie de répondre à des questions. Il va pouvoir trouver des chemins et des réponses qui vont lui être inspirés par sa philosophie, ses croyances, son imaginaire. Mais il se trouve qu'au moment où il va produire son savoir scientifique, où il va écrire un article, il va complètement le déshumaniser, il va se retirer de ça et il va essayer de le rationaliser en mettant des hypothèses, une démarche expérimentale qui fait que son travail, en principe, doit être vérifiable par d'autres personnes. Alors je dis en principe parce que pour certaines choses c'est faisable, mais si vous prenez par exemple des grandes expériences comme le CERN, il est clair que c'est le résultat de centaines de chercheurs sur des dizaines d'années, et si on voulait reproduire un autre accélérateur qui fait exactement la même chose, ça ne serait pas si évident que ça de le faire. Mais en principe, c'est possible. Et ça, ça veut dire que quelque part, vous faites déjà dès le départ une sorte de, d'acte de foi. Vous dites, il existe quelque chose que j'appelle la réalité, qui est indépendante de moi. C'est-à-dire que l'objet que j'étudie ne dépend pas du fait que ce soit moi qui l'étudie. Donc ça, on n'est pas en train de projeter quelque chose.
Quelque chose indépendant des humains, voilà, quoi, enfin de l'observateur humain.
Exactement. Et le savoir que je vais établir est indépendant du point de départ que j'ai eu pour me poser cette question et peut être reproduit par n'importe quelle autre personne. Ce qui fait que ce savoir, quelque part, on va lui donner une certaine valeur universelle et qu'il va poser des contraintes, qu'on pourrait dire une sorte de contrainte passive, sur toute autre croyance, sur toute autre philosophie, sur toute autre métaphysique. Parce que si vous avez une philosophie qui vous parle de la nature et qui est en contradiction avec ces faits qui ont été établis, qui sont reproduits, qu'on peut tester expérimentalement, eh bien tant pis pour votre philosophie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi quelque chose que des gens comme Richard Feynman l'ont dit de façon très, très drôle. Vous pouvez avoir la meilleure théorie du monde, elle peut vous plaire, tout ça. Elle peut être très belle, elle peut avoir toutes les qualités du monde. Mais si elle n'est pas en accord avec l'expérience et avec la réalité, avec ce que vous allez tester, eh bien, tant pis pour vous, il faut changer de théorie.
Ça, c'est l'idée que les belles théories tombent devant les méchants faits expérimentaux.
Voilà. Donc, quelque part, on se met en retrait par rapport aux faits. Donc ça nous donne une sorte de, on va dire, une sorte de démarche qui est finalement très, très matérialiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'en déduit une sorte de philosophie matérialiste, mais la démarche elle-même est une démarche matérialiste. Et ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de la physique, les physiciens, les grands penseurs, se sont toujours posé la question de savoir de quoi est fait le monde dans lequel nous vivons. Quels sont les objets fondamentaux dans le monde dans lequel nous vivons? Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la physique depuis les Grecs, hein, c'est passionnant, mais il y a beaucoup de traits pour faire ça en 40 minutes. Donc la version GZIP n'est pas très, très, très compréhensible. Mais juste pour vous montrer quelques grandes étapes, si on se replace à l'époque de Newton, donc la physique newtonienne, qui est quand même celle qu'on apprend au lycée, donc qui est quelque part considérée comme une base de l'éducation, en tous les cas dans notre pays, comme le socle de ce que quelqu'un qui va faire des études scientifiques jusqu'au niveau du lycée doit connaître, eh bien, on a quelque part, on suppose qu'il existe un espace, un temps, un espace à trois dimensions, vous voyez, 1, 2, 3, donc on peut aller dans trois directions indépendantes, qui ne change pas, qui est immuable, et puis il y a un temps qui passe. Voilà, ça c'est le cadre, et dedans il y a des particules, et ces particules, elles peuvent avoir des interactions, et à l'époque de Newton, on ne connaît qu'une seule force, c'est la force de gravitation, et il y a d'autres forces qui sont les forces qu'on appelle de contact, comme les frottements, les chocs, et il n'y a que ça. Voilà, on a tout décrit. Et ça va être le cas jusqu'à Maxwell. Et à Maxwell, on va découvrir l'électromagnétisme. On va se poser la question que Newton s'était déjà posée, parce que vous savez, la force de gravitation, c'est le fait que deux objets qui ont des masses, qui ont une masse, s'attirent à distance. Et que plus ces objets sont éloignés, plus la force entre ces objets est faible.
C'est-à-dire sans contact apparent.
Sans contact apparent. Et c'était ça le problème que Newton se posait. Il se disait, mais finalement, comment est-ce qu'une force peut se propager comme ça dans le vide? Comment peut-il y avoir une action à distance instantanée? C'est ce qu'il appelait l'hypothèse non fingo en latin. Et pour lui, il avait, dans une lettre à Bentley, il le dit très clairement, il dit, pour tout homme sain, c'est une absurdité. Et donc en gros, pour lui, il avait déjà compris que même si sa théorie marchait très bien, elle expliquait le mouvement des planètes, on pouvait calculer la période de comètes, comme la comète de Halley, prévoir la période d'ailleurs, toute la physique de la compréhension de la dynamique du système solaire va être vraiment jusqu'au 19e siècle, disons jusqu'à Poincaré, d'aller de succès en succès. C'est vraiment la théorie qui marche toujours, partout. Mais Newton lui-même était conscient que quelque part il y avait quelque chose d'un petit peu bizarre sur cette force qui agit. Vous prenez une masse, vous la bougez ici, et bien à l'autre bout de l'univers, vous allez être sensible à cette chose-là. Donc quelque part, ça lui posait un problème. Et il a fallu comprendre comment est-ce qu'on peut avoir des interactions à distance. Et la personne qui a vraiment compris ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Michael Faraday, qui a eu cette intuition de l'existence de quelque chose qu'on appelle, de point de vue technique, un champ. Alors un champ, c'est un type de matière qui a une configuration dans l'espace. Et la meilleure façon de se le représenter, c'est le champ magnétique. Si vous avez une boussole, vous tournez votre boussole, il y a le champ magnétique terrestre, et la boussole va s'aligner le long du champ magnétique terrestre. Et bien, en chaque point de l'espace, ici, et bien, le champ magnétique a une valeur. Et la boussole est sensible à la valeur de ce champ magnétique. Donc il emplit l'espace. Et donc ce champ, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque d'Newton, qu'on ne pouvait pas penser. C'est un objet théorique. Avec Faraday, on commence à concevoir le fait qu'il puisse exister. Et Maxwell va l'utiliser comme base pour sa théorie de l'électromagnétisme. Et à partir de ce moment-là, dans la réalité, il y a quelque chose de plus. Il n'y a pas que de la matière avec des particules. Il y a aussi ces champs. Ils existent. Et on peut les mettre en évidence par plein d'expériences. On peut montrer qu'ils agissent sur la matière. Donc ça, c'est vraiment la... Vous voyez, un changement en fait dans le contenu et donc, de ce qu'est la réalité.
C'est-à-dire qu'on remplit l'univers, l'espace, le laboratoire d'objets qui arrivent au fil des expérimentations nouvelles, au fil de l'imagination des gens qui cherche à représenter cette réalité. Et donc on a le, comme on dit techniquement, le mobilier ontologique, les objets que l'on considère comme importants pour décrire le monde. Cette liste d'objets augmente. Et voilà. Il y a aussi le contenant, voilà. L'espace et le temps de Newton qui a lui-même évolué, la vision qu'on avait de l'espace et du temps de Newton.
Donc exactement. Donc ça, c'est l'étape suivante qui va se passer donc en 1905, et ça c'est sous l'action d'Albert Einstein. Donc on voulait comprendre un petit peu la cohérence entre ce que l'on savait de l'électrodynamique de Maxwell et de la mécanique newtonienne. Et en fait, Einstein a compris qu'il fallait complètement revoir la notion d'espace et de temps. Il est arrivé avec cette notion d'espace-temps à quatre dimensions en 1905 avec sa relativité restreinte. Donc déjà là, on voit que donc l'espace, on avait l'espace, le temps, les particules. Ensuite, on avait l'espace, le temps, les particules, les champs. Et puis avec Einstein, on arrive avec l'espace-temps qui est une seule entité. On ne peut plus penser l'espace et le temps séparément. Les champs et puis les particules. Et puis quand il fait sa relativité générale en 1915, hein, puisqu'on est en train de fêter le centenaire le mois prochain. Donc beaucoup de publicité là-dessus. Il y a beaucoup de conférences en ce moment sur la relativité générale. Et donc il va réaliser que la gravitation, eh bien, ça va être aussi un champ au même titre que le champ magnétique est un champ. Donc il a la même structure. Et en fait, ce champ, il va même comprendre que ça définit exactement ce que c'est que l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps, ça va avoir une géométrie. Et cette géométrie, on l'identifie à ce que c'est que la gravitation.
L'espace-temps, alors, c'est le champ de la gravité.
Exactement.
C'est le champ associé à ce qu'on appelle la gravité.
La gravitation. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des champs et des particules. Puisque l'espace-temps lui-même est un champ. Donc vous voyez que ce qu'on va appeler dans le langage courant l'espace et le temps, il faut voir que dans la théorie, la façon dont on le représente, vont changer complètement de statut avec notre compréhension de la nature. Et ça, ce n'est pas juste des décisions, on choisit que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé ça, comme on construit une théorie sur cette base-là, on peut tester si cette hypothèse est valide. Et en particulier, une fois qu'on a fait cette hypothèse, on va avoir des prédictions de choses qu'on n'a pas prévues et on peut aller voir si elles sont là. Donc on fait des prédictions aussi. Et jusqu'à présent, cette vision-là est la vision qui tient. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit aller un pas plus loin que ça. On n'a toujours pas, on n'est pas au bout de l'histoire, puisque la matière, donc les particules et tout ça, sont décrites par une théorie qu'on appelle la mécanique quantique, alors que le champ de gravitation, pour l'instant, il est toujours décrit de façon classique. Et comme les deux sont en interaction, en fait, c'est un petit peu comme si vous décriviez, vous aviez des torchons et des serviettes et vous voulez mettre un signe égal entre les deux, ça ne marche pas. Donc simplement, pour un point de vue de cohérence, on sait qu'il va falloir trouver une nouvelle version de ce que c'est que la gravitation, et donc que ce champ de gravitation, lui, en trouver une version quantique. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire.
Ça, c'est un problème, finalement, de description d'une part de la gravitation comme un champ d'espace-temps, et d'autre part de ce qui se passe à l'échelle microscopique, comme des champs associés aux particules, mais dont le cadre technique n'est pas compatible, les deux cadres techniques ne sont pas compatibles. C'est ça le point.
Exactement. Comme à l'époque, juste avant Einstein, sa nécessité pour la relativité restreinte, c'est une incompatibilité théorique entre deux théories. Et en fait, c'est un peu ça le moteur de l'évolution, c'est que vous avez deux... En fait, dès que vous avez une théorie, il faut la croire et la pousser. Donc, en général, vous la vérifiez par les expériences en laboratoire. Vous arrivez à quantifier son domaine de validité. Vous dites elle est valable dans telle condition, telle condition, telle condition. Mais vous devez, pour un théoricien, on doit l'extrapoler le plus possible, toujours, jusqu'à ce qu'on tombe à un problème. Il y a deux types de problèmes sur lesquels vous allez tomber. Soit vous allez faire une prédiction qui est incompatible avec l'expérience, et là c'est l'expérience qui vous dit votre théorie elle est plus valide, donc il va falloir l'étendre, il va falloir la modifier. Oui. Soit elle rentre en contradiction avec l'extrapolation d'une autre théorie, ce que j'appelle des collisions de théorie. Et quand vous avez une collision de théorie, vous avez finalement deux réponses qui ne sont pas cohérentes, parce que vous avez extrapolé une théorie ici qui marchait très bien, et une théorie ici qui marchait très bien, et bien au moment où vous avez besoin des deux, ça ne colle plus. Et donc là, vous savez que vous allez devoir créer un nouveau cadre théorique qui englobe les deux et qui, dans certaines limites, va se restreindre à cette théorie ou à cette théorie. Et ça, c'est difficile parce que c'est pas simplement étendre les équations d'une théorie et de l'autre. En général, c'est pas ça. Ça va être trouver un nouveau cadre mathématique pour reformuler tous les anciens objets qu'on avait en termes d'un nouvel objet mathématique qui, dans certaines conditions, va donner les objets mathématiques de la première théorie ou de la seconde théorie suivant le contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. C'est-à-dire que c'est juste une question d'expérience.
Alors, on va reparler de cette collision de théorie finalement entre les théories microscopiques et la théorie de l'espace-temps, disons, le champ d'espace-temps. avant d'en arriver là, Savary, cette collision-là est arrivée dans des circonstances particulières, enfin dans une vision, une description du monde qu'on a essayé de faire, qui concerne maintenant l'univers dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu, pour arriver à faire de la cosmologie physique, de faire de la cosmologie une science, avant que ça soit plutôt des mythes, ou plus de descriptions, plutôt de l'imagination, pourquoi est-ce qu'il a fallu d'abord avoir une théorie de l'espace-temps, finalement ? Comment on a pu commencer à faire la cosmologie au moment où on a eu cette théorie de l'espace-temps d'Einstein ?
Donc pour l'instant, j'avais parlé des lois de la nature. Et ensuite, ça vous donne des équations. Et puis après, il faut être capable de les résoudre et pour répondre à certaines questions. La cosmologie, c'est la question de savoir finalement quelle est la structure de notre univers. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut être capable de définir ce qu'on appelle notre univers. Donc là, il y a déjà une question qui dépasse la question de physique, c'est qu'est-ce que je veux décrire comme objet ? Si vous allez à l'époque de la Grèce, par exemple la Grèce antique, eh bien l'univers, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le système solaire, qui est contenu à l'intérieur d'une sphère qu'on appelle la voûte céleste, sur laquelle sont déposées les étoiles. Et cette sphère, elle tourne autour de nous, et puis on ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a au-delà de ça. Donc on veut décrire le système solaire. Ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire jusque très tard, finalement, parce qu'on s'est posé la question de l'existence d'étoiles au-delà, quoi, disons, qui n'étaient pas sur une sphère et qui continuaient dans l'espace que très tardivement. Le premier à essayer de faire une carte de ce qu'on avait appelé plus tard notre galaxie, c'est William Herschel. Mm-hmm. Donc ça, c'est déjà assez tardif. La question de savoir s'il existait d'autres galaxies, c'est une question qui se pose à la fin du 19e siècle, qui au début du 20e va être vraiment un sujet de controverse en astronomie, qu'on va appeler le grand débat entre deux grands astronomes, Shapley et Curtis, et qui va être tranché par Edwin Hubble grâce à des développements technologiques qui vont être le développement de grands télescopes, pour prouver que certaines nébuleuses, en fait, ne sont pas à l'intérieur de notre galaxie, mais sur d'autres galaxies identiques à la nôtre. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le champ de ce qu'on va appeler l'univers va complètement exploser. On va se rendre compte qu'il existe des centaines de milliards de galaxies observables et qu'on va commencer à faire les grands catalogues de galaxies. Et là se pose la question de savoir est-ce que notre univers est infini, est-ce que notre univers est fini et qu'est-ce que l'on veut décrire. Donc ça, c'est déjà, je vais dire, le côté observationnel. C'est parce que les observations nous ont permis d'observer un univers toujours plus grand, toujours plus complexe, que ce qu'on a voulu mettre sous le chapeau univers a augmenté avec le temps.
C'est vraiment un résultat d'un progrès technique, finalement.
Ça, c'est le résultat.
On a des grands télescopes, on a des meilleurs détecteurs, on sait faire de la photographie, par exemple. Maintenant, c'est des électroniques. Et donc, ce moteur technique a permis d'embrasser un nombre de plus en plus grand d'objets, voilà. Et donc un volume d'espace, de temps finalement, de plus en plus grand aussi.
Exactement, il y a plus de choses. L'univers, si on prend ça comme l'ensemble des choses qui existent, eh bien, si vous avez plus que le système solaire, il faut décrire les autres galaxies, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose, et je veux dire, cette côté descriptive, on pourrait appeler ça plutôt de la cosmographie, c'est un peu de la géographie, on va dire, il y a des galaxies comme ci, il y a des galaxies comme ça, on va les classer.
Du cosmos, quoi,
la géographie du cosmos. Et pendant très longtemps, on a pensé que cet univers, il était éternel, puisque c'est comme ça, on a grandi dans l'idée d'un univers qui était éternel et qui ne changeait pas. Et en fait, c'est à partir de 1915 et à partir du moment où on a eu la théorie de la relativité générale, que là, on a dû complètement changer notre vision de savoir ce que c'était que la cosmologie. Puisqu'on avait une théorie qui nous parlait de l'espace-temps, qui était capable de nous dire quelle était la structure de l'espace-temps, eh bien tout de suite, il y avait un programme scientifique qui en est sorti, qu'on peut appeler le programme de cosmologie scientifique, qui était de savoir quelle est la géométrie de notre univers à nous. Donc ça, c'est une question qui est une question naturelle. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question ? Et en fait, on peut se rendre compte qu'on n'est pas capable de répondre à cette question, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons fondamentales. Les raisons techniques, c'est que d'un point de vue mathématique, ces équations, c'est des équations très compliquées. C'est des équations. Donc il y a 10 équations pour 10 fonctions à 4 variables, qui sont des équations aux dérivées partielles, non linéaires et couplées. Pour ceux qui n'ont jamais fait de maths, ça ne veut rien dire, c'est du chinois. Pour ceux qui en ont fait, ils se rendent compte que personne ne sait résoudre ces équations-là.
Pour ceux qui ont fait de maths, c'est du chinois, mais la réponse, c'est... C'est le bordel.
C'est le bordel. Voilà. Et surtout, c'est même pas qu'on ne sait pas les résoudre. Si on n'est même pas capable de prouver qu'il existe des solutions. On n'est pas tout ce genre de questions que sur les types d'équations habituelles qu'on apprend à l'école, on peut prouver qu'il existe une solution, qu'il y en a une infinité, qu'il y en a deux, qu'il y en a 15. Là, on n'est pas capable. Donc il y a un problème mathématique, il y a des mathématiciens qui travaillent sur ce genre d'équations, mais on n'est pas arrivé à ce degré de sophistication. Donc ça, c'est un problème technique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas résoudre, parce que vous pouvez toujours imaginer mettre ces équations dans un ordinateur et résoudre ce type d'équations dans un ordinateur, si vous aviez des ordinateurs suffisamment puissants. La deuxième limitation, elle est plus fondamentale. Elle vient du fait que pour résoudre ces équations qui ont été écrites par Einstein, donc pour déterminer la géométrie de l'espace et le temps de notre univers, il faut savoir quelle matière est contenue dans l'univers. Parce que c'est la matière qui courbe l'espace-temps et la courbure de l'espace-temps qui dit à la matière comment se déplacer. Donc on a un problème couplé. Donc la question, c'est que si je veux résoudre ces équations, il faut que je sache où se trouve la matière.
Il faut une démographie de la matière, finalement.
Donc il faut commencer par savoir quelle est la matière qu'il y a dans l'univers. Alors vous allez me dire, on voit des étoiles, on voit des galaxies. Mais ce qui se passe, c'est que comme la lumière se propage à la vitesse de la lumière, donc qui est toujours la même dans le vide, eh bien ça veut dire que plus une galaxie est loin, plus il lui faut de temps pour nous parvenir. Et ce qui veut dire que toutes les galaxies que l'on observe, par exemple, ne sont pas se trouvent tous sur un cône qu'on appelle notre cône de lumière. C'est une section en fait de l'espace-temps.
Un sous-ensemble de l'espace-temps. Ce n'est pas l'ensemble de tout l'espace-temps.
Je ne vois pas toutes les galaxies aujourd'hui. Je vois toutes les galaxies. Pas toutes les galaxies, mais je peux voir des galaxies très très loin. Mais plus je les vois loin, plus je les vois dans le passé. Ouais. Et donc en fait, j'ai accès qu'à une section qu'on appelle le cône de lumière. Et ça pose un problème parce qu'on peut se poser la question de savoir si je connais toute la distribution de matière sur ce cône de lumière, est-ce que je suis capable de résoudre, est-ce qu'il existe une solution unique pour la solution dans tout l'espace-temps? Et en fait, on peut prouver que la réponse est non. Voilà, donc on ne peut pas. Et ça, c'est si on avait des observations idéales. Le fait est qu'on n'a pas d'observations idéales parce que les galaxies lointaines sont moins lumineuses, on a de plus en plus de mal à les détecter, des effets d'évolution, il y a plein d'effets astrophysiques qui font qu'on n'est pas capable.
Puis les galaxies n'ont pas toujours existé non plus.
Les galaxies n'ont pas toujours...
Donc voilà. Il fut un temps où il n'y avait pas de galaxies, si on le regardait assez lointain dans le passé.
Exactement. Donc là, quelque part, on a une limitation de fait. Et donc, plutôt que de savoir si on peut résoudre la question que j'ai posée tout à l'heure, donc quelle est la géométrie de l'espace-temps de notre univers, on va faire vraiment une attitude de physicien, on va changer la question, on va se dire, est-ce que je peux trouver une solution de ces équations qui soit une solution beaucoup plus simple, que je sais être fausse, mais qui est une assez bonne description de notre univers, peut-être moyennée sur des grandes échelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire un modèle. Faire un modèle en science, c'est trouver une solution qui est une solution fausse et approchée, qui simplifie le problème sans pourtant être le trivialiser et qui permet de poser des questions pertinentes sur ce modèle. Et donc c'est ce que les gens vont commencer à faire. Et le premier à faire ça, c'est Einstein en 1917. Il va faire le premier modèle cosmologique en 1917. Et donc il va partir sur des bases très très simples. Il connaissait à peu près l'astrophysique de son époque. Donc on ne savait pas qu'en 1917 qu'il y avait d'autres galaxies. Donc il s'est dit, finalement, toute la matière, c'est en gros ce qu'on a dans d'autres galaxies. Quand je regarde le ciel...
C'est toujours aussi étonnant de réaliser que finalement, il y a un siècle, en gros, on était relativement ignorant de ce qui se passait en dehors de notre galaxie. Ce n'était pas encore très clair le statut de ces objets. Donc il faut avoir ça en tête.
Oui, on ne savait pas qu'il y en avait. C'était le débat, ça.
C'était l'époque du grand débat dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement. Donc Einstein va se dire, j'ai un ensemble d'étoiles dans ma galaxie. Einstein, il faut aussi penser que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en physique statistique, donc la relation entre le microscopique et le macroscopique. Quand vous prenez un gaz, c'est constitué d'atomes. Mais si vous voulez calculer la pression dans cette salle, vous n'allez pas aller regarder la dynamique de chacun des atomes. Vous allez remplacer ça par un gaz qui a une certaine densité moyenne. Il s'est dit, je vais faire la même chose, je vais remplacer mon gaz d'étoile, toutes mes petites étoiles par un gaz d'étoile qui a une densité moyenne. Je ne connais pas sa distribution, je vais supposer qu'elle est homogène, c'est la première chose à faire. Et puis il prend quelques autres conditions, puis il arrive à trouver une solution. Et surtout, il va imposer que l'espace est statique, puisque son héritage, c'est l'héritage newtonien d'un espace-temps qui ne change pas. Et il arrive à trouver qu'il peut être statique au prix de l'introduction d'une constante qu'on appelle la constante cosmologique, et il trouve cette solution. Donc ça, c'est la première fois que quelqu'un essaye de faire un modèle de notre univers. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle, il a une topologie telle que l'espace n'est pas infini. C'est une sphère à trois dimensions. Et donc, la quantité de matière totale dans l'univers est finie.
Voilà. Il se referme sur lui-même.
Donc on a donc quelque part c'est très beau puisque à partir de principes très très simples et de ces équations il arrive à dire la structure de l'univers il doit être fini, il est statique et puis bien sûr on va devoir comprendre le détail mais on aurait une base qui est une première approximation. Souvent l'exemple que je prends c'est si vous vous posez la question de savoir quelle est la forme de la Terre, la première approximation, donc le premier modèle c'est de dire la Terre est une sphère. Et puis après, vous apprenez qu'elle est un peu aplatie au pôle. Donc vous dites, la sphère est un ellipsoïde. Et puis ensuite, vous vous rendez compte qu'il y a des montagnes, il y a des machins. Et il y a tout un truc qu'on appelle le géoïde, qui est une forme beaucoup plus compliquée. On n'a pas une formule mathématique pour cette surface. Mais pour autant, dire que la Terre est une sphère avec un certain rayon eh bien, c'est une très bonne approximation. Donc, c'est un peu la même chose que ce qu'a fait Einstein. Il a dit, bah, je prends toute la matière, je la mets de façon distribuée comme un gaz. J'ai une première approximation. Et à la rigueur, on va pouvoir itérer par rapport à cette solution pour trouver une meilleure description de ce que ça
c'est produisant un modèle, constatant, essayons de constater s'il a quelques pertinences dans l'observation. S'il n'en a pas du tout, le modèle est mis à bas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il en a quelqu'une, on se dit, bon, il n'est pas si mauvais. Gardons-le, peut-être il faudra raffiner, mais il n'est pas si mauvais en première intention.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Alors, on aurait pu en rester là, s'il n'y avait pas eu, comme toujours dans la science, il y a toujours des petits trubillons hein, qui sont très importants.
Des petits malins.
Des petits malins. Et donc, les deux malins en question, c'est Alexandre Friedman, donc il était météorologue au départ russe, et Georges Lemaître, qui était un chanoine belge, qui eux vont partir exactement sur les mêmes bases qu'Albert Einstein, mais vont chercher les solutions les plus générales de ces équations sans imposer le fait que l'univers est statique. Et ils vont trouver en fait qu'il y a plein de solutions, mais dans ce cas-là, l'espace est en train de se dilater au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'Einstein va avoir beaucoup de mal à accepter. Et en fait, il va l'accepter. D'abord, il va le rejeter sans même regarder les équations en disant qu'elles sont fausses. Ensuite, il va voir que c'est techniquement correct, mais il va dire que c'est horrible d'un point de vue philosophique. Donc là, on voit aussi la limite entre science et philosophie. On est en train de parler de l'univers et quelque part, on projette quelque chose déjà dans les types de solutions qu'on est en train de chercher. Et puis, il va accepter les choses. Et puis, à partir de ce jour-là, il ne fera plus jamais de cosmologie. Et ça, c'est important.
Donc, du jour
ça,
où il accepte que l'univers est en expansion, ça le déprime tellement. Enfin, ça le déprime ou ça le voilà, dégoûte.
C'est ça. Il écrit un petit papier, je crois, en 24 ou en 27 avec deux citeurs pour dire qu'il trouve une de ses solutions. Et puis, après ce jour-là, il ne fait plus jamais de cosmologie.
Bon, voilà. Merde.
Alors, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le cadre de l'histoire des sciences. C'est qu'on voit toujours Einstein comme un génie. Il s'en est un. Il a développé cette théorie de la relativité générale tout seul, quoi, avec l'aide de Marcel Grossman. Mais en fait, il y avait des prédictions de cette théorie s'imposer à lui. Donc les théories, une fois qu'elles existent, elles vivent indépendamment des gens qui les ont créées. Et elles disent des choses, et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous. Et Einstein, il y a eu trois prédictions de sa théorie, qui étaient l'existence des astres, qui plus tard on va appeler les trous noirs. Il y a eu l'existence d'ondes qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui sont l'équivalent des ondes de lumière qu'on a dans la théorie de l'électromagnétisme, mais pour la gravitation. Et puis, on avait le fait que l'espace-temps se dilate aux aisselles cosmologiques. Donc ça, c'est trois prédictions fortes de la théorie. On ne peut pas tourner autour, elles existent vraiment. Et c'est trois prédictions auxquelles Einstein n'a pas adhéré et sur lesquelles il s'est trompé. Et donc ça, c'est très important pour moi, c'est de montrer que les théories voient plus loin que leur créateur. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins rusés qu'Einstein, comme nous, par exemple. On peut quand même contribuer à faire des trucs parce qu'on gratte, mais comme on est moins futé, on a moins d'arrogance philosophique. Vous voyez, ça doit être comme ça, les choses. Et donc, voilà. Mais ça, c'est important pour les jeunes parce que souvent, on se dit « Ah, je vais aller étudier la relativité générale ou la théorie des cordes ou n'importe quoi. » Et il y a quand même des gens très, très forts qui sont passés avant et on se dit « Mais comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose après Einstein que la relativité générale ?»
Non, il y a toujours un truc à faire.
Et lui, il est parti sur une question, il a créé sa théorie. En fait, il y a un moment, je pense qu'à un moment, on fossilise tous dans notre connaissance parce que le monde évolue, les concepts évoluent et on est empreint de notre éducation. Et je pense qu'à un moment, il ne pouvait plus en sortir et que sur ces trois prédictions, il s'est trompé. Il a écrit d'ailleurs quelques papiers assez mauvais sur les trous noirs, par exemple. Ça, c'est hallucinant. Mais ce n'est pas grave, on lui pardonne, il a fait des choses tellement
réelles.
Voilà. Mais ça rassure, c'est-à-dire que. Nous aussi, on peut faire des petits trucs.
On peut faire des petits trucs, ouais, c'est voilà. Ça.
Donc, il y a eu, comme je dis, donc le fait que cet univers était en expansion, ça a été admis. Et surtout, à cette époque-là, il y a eu les observations d'Edwin Hubble qui ont permis de confirmer l'expansion de l'univers. Voilà. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui...
Excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Est-ce que les observations d'Edwin Hubble, qui, lui, voyait des choses, est-ce qu'il aurait été capable de les comprendre, de réaliser que c'était peut-être la trace d'une expansion de l'espace, sans avoir de modèle cosmologique, sans avoir... des choses, comment dire, est-ce qu'il y avait nécessité d'un modèle pour essayer d'interpréter les données ou les observations qu'avait mené Hubble, ou est-ce qu'il aurait pu se dire bon bah c'est comme ça et trouver une autre loi ou décrire ça par une loi phénoménologique sans un arrière-plan de modèle?
Alors lui en fait ce qu'il mesurait, c'est il mesurait la distance de certaines galaxies et la vitesse de ces galaxies. Il se rendait compte que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite de nous. En fait, si vous avez juste ça comme observation, vous ne pouvez pas déduire que l'espace est en train de se dilater parce que vous pouvez avoir l'impression que finalement, vous êtes au centre et que quelque part, le gaz de galaxie qui est autour de vous est en expansion dans un univers qui est statique. Et puis, pour une raison étrange, vous êtes au centre de cet univers. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que si vous étiez sur n'importe quelle autre des galaxies, vous verriez la même chose. Et ça, c'est un principe très, très fort qu'on appelle le principe copernicien. Mmh. Et la personne qui a vraiment compris ça, c'est Georges Lemaître. En fait, c'est le premier dans son article de 1927.
Qui a stipulé qu'on n'était pas dans un endroit particulier, qu'on n'est pas au centre, on est au centre de rien.
Voilà, on est au centre de rien. Puisqu'on s'était déjà trompé en mettant la Terre au centre du système solaire, le système solaire au centre de la galaxie, il y a un moment où les gens ont appris un peu, ils se sont dit, bah, finalement, notre galaxie, s'il existe d'autres galaxies, elle n'a rien de particulier. Ça doit être une galaxie typique, et on peut imaginer que nous soyons des observateurs ou des cosmologistes dans une autre galaxie, fort probablement nous observerions la même chose. Parce que s'il existe d'autres observateurs partout dans les galaxies et qu'on est quelqu'un tiré au hasard, il y a peu de chances qu'on soit des observateurs au centre.
Au centre, on a quelque chose.
Donc on a favorisé des modèles qui sont des univers sans centre. Alors d'après, d'un point de vue théorique, on peut construire des modèles d'univers dans lesquels l'univers a un centre, et ainsi de suite. Donc ça, ont beaucoup travaillé sur dériver toutes les solutions qui ont certains types de symétrie avec un centre, avec une symétrie axiale, avec tout ce qu'on peut imaginer.
Et une sorte de jeu, finalement, dans la zoologie des modèles, on peut imaginer, ou des solutions de ces équations, on peut sortir tout un tas de solutions et de chercher, finalement, de fouiller en les sortant par grande quantité, fouiller celle qui va être la plus adaptée ou la moins inadaptée aux observations.
C'est ça. Donc, plus qu'un jeu, c'est plutôt une exploration. Donc, il faut imaginer la théorie comme une forêt amazonienne. Comme je dis, vous ne pouvez pas résoudre les équations. Donc, vous trouvez des solutions particulières qui sont des solutions simplifiées avec certains types de symétrie. Et vous posez la question, est-ce qu'il y a des systèmes physiques pour lesquels ce sont des bonnes approximations? Et puis, en connaissant plein, eh ben, vous arrivez à comprendre un petit peu comment fonctionne cette théorie. Mais parce que vous n'êtes pas capable de résoudre complètement les équations. Et puis là, donc, on est parti avec ces solutions où on peut être n'importe où. Eh bien, on peut se poser la question des univers à un centre. Et à partir de ce moment-là, on peut construire un modèle et on peut vérifier finalement si c'est vrai
si
ou pas.
Pertinent.
Voilà, donc, c'est ça. Donc, on peut tester cette hypothèse-là.
Ça peut exclure des modèles qui ne seraient pas pertinents avec les observations.
Exactement. Alors, on peut, d'un point de vue conceptuel, le faire, mais le faire concrètement, ça n'était possible que depuis 2008, en fait.
Ah, pourquoi 2008 ?
Parce que personne ne s'était... Parce qu'en fait, le problème, c'est... Imaginez que vous êtes là et que... Voilà, imaginez la chose suivante. Vous êtes un marin qui est échoué sur une île et puis il y a un archipel d'îles autour. Et vous voyez toutes ces îles, vous regardez à droite, à gauche, vous avez l'impression que les îles sont distribuées à peu près de façon isotrope autour de vous. D'accord ? Et vous essayez de faire une carte de cet archipel.
Sans bouger de l'île, évidemment.
Sans bouger de l'île, vous n'avez pas de bateau, vous êtes complètement échoué. Et donc, vous dites, il y a une sorte de, ce qu'on appellerait en physique, symétrie d'isotropie autour de moi. Je regarde dans n'importe quelle direction, je vois autant d'îles à droite, à gauche. J'ai deux solutions. Soit l'archipel a une symétrie sphérique et je suis au centre de l'archipel. Et donc ça, je vais faire un modèle de mon archipel à symétrie sphérique. Soit je pourrais être dans n'importe quelle île et je verrais la même chose. Donc les îles sont aussi distribuées de façon homogène et isotrope. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de bateau et que vous ne pouvez pas avoir sur une autre île, vous ne pouvez pas prouver que c'est l'un plutôt que l'autre. Non. Et donc, en fait, cette question, elle s'est posée très, très tôt. Et on a construit des modèles d'univers qui reproduisaient ce que l'on savait. En étant proche du centre, on a trouvé des solutions qui étaient comme ça. Donc la question, c'était comment est-ce que je fais pour prouver que l'univers vu d'autre part est à peu près le même que le mien,
sans pour autant pouvoir
bouger. Comment vous faites ? D'accord ? Donc ça, il a fallu très longtemps. Et dans tous les livres de cosmologie qui ont été écrits jusqu'en 2008, c'est marqué que c'est pas possible de tester ce principe et que il y a même beaucoup de gens qui écrivaient que ce principe n'est pas un principe de physique, c'est un principe de philosophie. On choisit quelque chose, on peut pas le prouver.
C'est une sorte d'hypothèse que l'on fait, qui nous paraît raisonnable, mais qu'on a les plus grandes peines à vérifier par une expérience quelconque, une observation quelconque.
Alors ça, donc jusqu'en 2008, c'était le cas. Et en 2008, il s'est trouvé qu'avec un de mes collaborateurs, George Ellis, de l'Université du Cap, qui est quelqu'un de très connu parce qu'il a travaillé avec Stephen Hawking dans les années 70 et tout ça, donc a vraiment contribué au développement de la cosmologie et de la relativité générale, on en discutait, on s'est dit, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'on observe l'univers ici, aujourd'hui, mais... demain, on l'observe pas exactement du même point, parce qu'on bouge dans le temps. Donc, la question, c'est est-ce que l'univers serait le même vu aujourd'hui et dans 10 ans ? Alors, vous faites les calculs, parce que donc tout a bougé un petit peu, et donc vous arrivez à des effets qui sont négligeables, qui sont de l'ordre de 10-10. Vous aviez que des grands astronomes comme Alan Sandage, par exemple, s'étaient posé la question. Ils avaient dit ouf, c'est bien ce tout petit nombre parce que on verra jamais la différence sur des échelles de temps qu'un siècle. Donc on peut faire de l'astrophysique sans problème. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que le développement des très très grands télescopes, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les EELT, European Extremely Large Telescope. Aujourd'hui, on a que des VLT, c'est des Very Large Telescope. Et d'ici 20 ans, on espère avoir des des extrêmement larges télescopes.
Les VLT, pour donner une idée, ils font 8 mètres de diamètre. On a une douzaine de télescopes de la classe qu'on appelle décamétrique, parce que maintenant, il y a les classes multidécamétriques qui font 39 mètres de diamètre.
Oui, c'est ça, c'est 30-40.
Quelques dizaines de mètres de diamètre pour les diamètres des miroirs qui sont en construction pour l'instant.
Voilà. Donc avec ce type de télescope, avec des spectrographes de haute résolution, eh bien, on est capable de mesurer ces effets à ces échelles-là.
Donc on serait capable de se rendre compte, si on était au centre d'une manière d'explosion,
et on peut
si on était vraiment à un endroit au hasard d'une explosion dont les centres sont partout finalement.
Exactement. Donc si vous, là, à partir d'une observation depuis un point de l'espace-temps, vous n'êtes pas capable, mais à partir de deux, même si c'est le, alors faut pas dire le même point, mais même si c'est sur la même ligne d'univers, mais à deux temps différents, vous êtes capable de faire
c'est
la différence.
C'est le même point spatial, c'est la Terre, mais c'est pas au même temps.
Exactement.
Bon, évidemment, la Terre s'est bien tournée autour du Soleil, mais on est aux échelles de l'univers là. Donc à l'échelle de l'univers, la Terre, elle est.
Donc
fixe.
Il faut observer l'univers à 10 ans d'écart avec ce genre de technologie. D'accord. Et on est capable de faire la différence.
Et du coup, maintenant, on a un modèle qui décrit l'univers. Et ce modèle, est-ce qu'il roule bien, si j'ose dire ? C'est-à-dire qu'il y avait le modèle d'Einstein qui était fondé sur un certain nombre de préconçus, on va dire, d'une certaine façon. Il y avait ses équations. Il avait aussi ses préconçus philosophiques. L'univers est statique, par exemple. Maintenant, disons qu'on fait mieux. On a des meilleurs moyens d'observation. On essaie de se libérer des préconçus qu'on peut avoir. En tout cas, on a essayé. On en a peut-être d'autres qu'on ignore. On a un modèle de description de l'univers qui s'appelle les modèles à Big Bang. Est-ce que ce modèle-là fonctionne bien ? Est-ce qu'il a des problèmes ? Comment l'a-t-on construit ? Le tout en moins de 10 minutes pour qu'on puisse après poser des questions.
Parfait.
Facile, 13,8 milliards d'années d'évolution en 10 minutes.
Mais c'est facile,
Il est très fort.
C'est facile. Donc vous avez tous entendu le mot Big Bang.
Après, je l'ai
d'accord.
Dit.
Vous avez tous entendu. Qui n'a pas entendu le mot Big Bang ? Avant de venir ici. Bon, très bien, on est sur des bonnes bases. Le problème, c'est que tout le monde, on parle du Big Bang, mais il faut se poser la question, en fait, il n'y a pas un modèle du Big Bang, il y a plein de modèles du Big Bang. Parce que ce qu'on a mis sous le terme Big Bang, ça a évolué en fonction du temps. Donc je vais juste vous donner les grandes étapes sans vous expliquer pourquoi vous expliquer ça dans le détail, parce que là, je vais sortir du temps. Mais donc, je vous ai dit, à l'époque d'Einstein, Friedman et Lemaître, c'est un exercice de relativité générale. On résout des équations, on a les observations de Hubble, et c'est juste le fait que cet univers est en expansion. Et ça, c'est ça qui va donner la base. On n'appelait même pas ça Big Bang, à peu près. On appelait ça la théorie de l'univers en expansion. C'était juste le nom de cette théorie. Dans les années 40... En particulier sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Georges Gamov, qui était un savant russe qui travaillait aux États-Unis dans les années 48, après la Seconde Guerre mondiale, on développe la physique nucléaire. On se dit, mais en fait, la physique nucléaire, elle doit aussi avoir des effets dans l'univers, parce que si l'univers se dilate, eh bien, si je retourne dans le passé, la matière est de plus en plus condensée, donc je suis à plus haute énergie, je dois prendre en compte les effets de physique nucléaire dans cet espace-là. Et on va comprendre que ça va créer ce qu'on appelle le Big Bang chaud, c'est-à-dire que l'univers dans le passé était chaud et dense, et qu'il y avait des phénomènes physiques qui pouvaient se passer, que l'univers allait avoir ce qu'on appelait une histoire thermique. Et à partir de ça, on arrive à comprendre des choses qui sont très importantes. L'origine de tous les éléments chimiques. Donc, ce modèle-là va expliquer comment on peuple le tableau de Mendeleïev, parce qu'on part d'un univers où il n'y a que des protons, des neutrons et des photons, donc de la lumière. Et on arrive, en évoluant ces équations, à avoir du deutérium, du lithium, du béryllium, et avec des traces du carbone.
On forme des noyaux nouveaux qui n'existaient pas avant. Voilà,
exactement. Donc on comprend, donc on connaît tous les noyaux qui existent aujourd'hui sur Terre, mais la cosmologie, ce modèle-là, nous permet de comprendre comment on va peupler on va les synthétiser au cours de l'histoire de l'univers à partir simplement de neutrons et de protons. Donc ça, c'est quelque chose déjà, l'origine des éléments chimiques. Ça, c'est très important. Et puis on va comprendre qu'il existe aussi un bain de radiation, c'est le fond diffus cosmologique. Ça, je pense que vous avez tous vu dans les journaux les résultats du satellite Planck il y a 2 ans, c'est ça ?
Deux ans maintenant, je dirais 2 ans.
Donc ces cartes qui sont des sortes d'ovales en fait, où on voit la lumière qui a été émise il y a 380 000 ans après le Big Bang. Et on est capable de l'étudier et on peut voir que c'est un corps noir avec une très haute précision. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on comprend, c'est que l'univers émerge d'une sorte d'état qui est très chaud, très dense, très dense et à l'équilibre thermodynamique. Et qu'en fait, l'univers se refroidit sous l'effet de l'expansion. Et donc ça, c'est la seconde étape. Alors, ce qui se passe, c'est que là, ça, c'est à moitié satisfaisant parce que cet univers, il est toujours homogène et isotrope. Et clairement, si vous levez les yeux, il n'est pas homogène et isotrope. Il y a des vides, il y a des galaxies, il y a des filaments. Vous avez vu toutes ces cartes de la distribution des galaxies. Et donc, il fallait comprendre comment ces structures peuvent apparaître. Et les gens ont commencé à se poser ces questions. Le premier à vraiment faire quelque chose de sérieux sur le sujet, c'est Lifshitz. Pour ceux qui ont étudié la physique, c'est le Lifshitz du Landau-Lifshitz. Hein, c'est le copain de Lev Landau qui, en 1946, regarde un petit peu ce qui se passe. Il dit, je vais mettre mettre des petites perturbations et puis je vais voir si elles grandissent ou pas. Et il comprend qu'il va y avoir toute perturbation de densité.
Il va supposer que l'univers n'est pas parfaitement homogène. Voilà. Il y a des petits grumeaux d'une certaine façon. Et il va regarder est-ce que ces grumeaux deviennent de plus en plus grumeaux. Au contraire,
voilà. Si vous avez, si vous prenez de l'eau, vous lancez une bille, vous allez voir des vagues, elles vont s'atténuer. Il y a un moment où ça va revenir le calme plat. Là, avec la gravitation, est-ce que c'est le cas? Et en fait, si vous avez une surdensité, eh bien, le champ de gravitation va devenir plus grand. Et en fait, il y a une instabilité. Et donc, vous allez, sous l'effondrement gravitationnel, à partir de ces petites inhomogénéités, être capable de former des grandes inhomogénéités et des petites sous-densités, faire des grands vides. Et donc, il comprend ça. Et ça va être le développement de ce qu'on va appeler la compréhension des grandes structures de l'univers. Alors ça va prendre plein d'étapes. D'abord, d'un point de vue théorique. Et puis ensuite, avec les grandes simulations numériques qu'on fait aujourd'hui. Et ce modèle-là, aujourd'hui, permet vraiment de comprendre l'origine de, je veux dire, de toutes les grandes structures, des galaxies, des amas de galaxies, des grands filaments.
Alors, donc, finalement, ces galaxies, amas de galaxies, des choses, des structures qui comptent des centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie, des amas de galaxies qui ont des centaines de galaxies, leur origine fondamentale, finalement, c'est des espèces de grumeaux infects dans une espèce de soupe cosmique, pas tout à fait homogène, mais presque, avec des petits machins un peu plus denses par endroits, qui, au fil du temps et en dépit de l'expansion, ont réussi à se condenser pour obtenir ces structures, ces grandes structures actuelles.
Exactement. Donc ça, c'est la troisième phase du Big Bang, de la description de ces modèles du Big Bang. Et donc la question qui vient après, naturellement, c'est ah oui, mais ces petits grumes, parce que ces petites fluctuations, d'où ils viennent? Et donc les gens ont commencé à réfléchir là-dessus, et c'est dans les années 80 qu'on s'est rendu compte qu'on a trouvé la réponse. On n'y est pas arrivé directement, c'est une façon détournée que je ne peux pas vous raconter, mais on s'est rendu compte que si on prenait en compte la mécanique quantique et la gravitation ensemble, il devait exister une phase primordiale qu'on appelle l'inflation, et qu'en fait, dans cette phase-là, les fluctuations quantiques, on ne peut jamais les tuer. C'est l'essence de la mécanique quantique d'avoir des choses qui fluctuent. On ne pouvait pas les tuer, et en fait, elles étaient étirées et amplifiées pendant cette phase d'inflation, et elles donnaient exactement les conditions initiales qu'on avait besoin pour recouvrir les observations. Et ça, ça veut dire que ce modèle-là, je veux dire, c'est le modèle qu'on appellerait le modèle standard. Une phase d'inflation avec cette ère de mécanique quantique, ces fluctuations, la partie chaude de l'univers qui se refroidit, et puis dès que l'univers devient suffisamment froid pour que la pression de radiation soit suffisamment faible, donc après finalement le découplage du fond diffus cosmologique, croissance des grandes structures sous l'effet de l'effondrement gravitationnel. Et ça, ce modèle-là, il a quelques paramètres, et aujourd'hui, il est en accord avec toutes les observations que nous faisons, que ce soit les observations de supernova, du fond diffus cosmologique, des grands catalogues de galaxies. Tout colle, en fait.
C'est-à-dire que ça reste un modèle. Ça reste un modèle, mais il a la vertu majeure de n'être contredit par aucune observation. Ce qui ne veut pas dire qu'il est juste.
Non, ça veut dire qu'on l'appelle le modèle standard.
Il veut dire qu'il n'est pas faux.
C'est-à-dire qu'on l'appelle le modèle standard. C'est le point de départ, le point de zéro de discussion de toutes les alternatives que l'on peut imaginer. On va comparer à ça parce que c'est le seul qui marche pour l'instant. Mais il y a quand même des zones d'ombre. Quand on dit que ça marche, c'est que quand même, il faut rajouter des ingrédients qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, deux ingrédients. Un, il faut que la matière présente dans l'univers, il faut avoir un type de matière qu'on appelle de la matière noire. Donc c'est en gros une sorte de gaz de particules qui sont des particules massives, mais qui ne sont pas de la même nature que les atomes dont nous sommes faits. Donc ça, c'est la matière qu'on appelle baryonique, et qui n'est pas connue en accélérateur ou en laboratoire.
On ne l'a jamais observée.
On l'a jamais
observée.
Autrement
que par ses effets cosmologiques.
Donc la gravitation est universelle, donc toute masse va avoir un effet. Tu le racontais bien dans une de tes conférences avec Star Wars et tout ça. Je ne vais pas le faire, tu le fais mieux quoi. Mais on peut mettre en évidence cette matière-là. Alors bien sûr, l'alternative, c'est de dire, mais attendez, peut-être qu'à ces échelles-là, c'est la relativité générale qui est prise en défaut.
Oui, parce que ce modèle a été construit dans un cadre conceptuel qui est cette théorie de l'espace et du temps qui est la relativité générale et de la gravité qui est la relativité générale.
Tout à fait. Et donc ça, les gens ont réalisé ça il y a une quinzaine d'années. Mais donc l'attitude naturelle, c'est de dire, donc il va falloir mettre au point des thèses de la théorie de la relativité générale aux échelles cosmologiques. Et ça, on a été capable de le faire depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on commence à les mettre en application parce que c'est une chose de concevoir le test. Faire les observations, c'en est une autre. Parce qu'en général, il faut construire un satellite qui va mesurer des choses que vous n'avez jamais mesurées, avec plein d'effets. Mais il y a tout un programme et une dynamique dans la communauté qui fait qu'aujourd'hui, on a les éléments pour tester la relativité générale, disons, sur la taille de l'univers observable. On n'a pas tous les résultats, mais je pense que d'ici 10 ans, s'il y a une faille dans la relativité générale à ces échelles-là, on le saura. Et parce qu'on a suffisamment de tests qui existent aujourd'hui pour le faire. Et l'autre composante dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, donc cette fameuse constante que Einstein avait mis pour mettre dans son test, ouais. dans son univers statique. Et elle est nécessaire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, depuis un milliard d'années, l'univers est en train d'entrer dans une phase d'accélération. Donc il se dilate, mais au lieu de se dilater en ralentissant, il se dilate en accélérant. Et ça, ça n'est possible que si on a un type de matière qui a la vertu d'avoir une pression, je ne sais pas si c'est une vertu ou le défaut, d'avoir une pression négative. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on connaît bien.
Ce n'est pas un truc intuitif pour la vie de tous les jours. La matière habituelle a une pression positive. La pression dans l'air de cette pièce, elle est positive.
Exactement. Voilà. Donc ça, on ne connaît pas dans le monde autour de nous. La constante cosmologique, elle agit comme, de façon effective comme une matière qui a cette propriété-là. Mmh. Mais là encore, on déduit l'existence d'une telle matière et ses propriétés en supposant la relativité générale étant correct. Une bonne description de la gravitation. Mmh. C'est donc aussi peut-être une indication que c'est la relativité générale elle-même qui est mise en défaut. Mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Et donc ça, c'est des champs qui sont en train de fleurir aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver des modèles pour comprendre ces deux composantes qu'on appelle le secteur sombre. Donc ça, c'est l'état de ce modèle-là. Donc il est basé sur de la physique, je veux dire, ordinaire. Mmh. Toutes les observations, elles ne font intervenir de la physique qui sont à des échelles d'énergie telles qu'elles ont toutes été testées en accélérateur. Donc il n'y a pas de physique exotique. Et la seule chose qui est exotique, c'est la nécessité pour ces deux types de matières que l'on ne connaît pas aujourd'hui.
De mettre des ingrédients supplémentaires. Ce n'est pas un exotisme de théorie, c'est un exotisme de contenu, disons.
Et là, on peut avoir deux attitudes. On peut être soit conservateur, soit révolutionnaire. Mais en fait, si on est conservateur cosmologiste, on va dire, il y a ce secteur sombre. Mais si on est conservateur en termes de physique théorique, on va dire, on peut changer les hypothèses, soit cosmologiques, soit les hypothèses de physique fondamentale. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord sur le sujet. Et c'est normal qu'il n'y ait pas d'accord, parce que, je vous le rappelle, j'ai dit qu'il y a un siècle, il y a un siècle, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies en dehors de la nôtre. Donc il faut bien se prendre aussi en compte l'échelle de temps, c'est-à-dire que la connaissance que l'on a acquise sur l'univers en 50 ans est tellement grande qu'on n'a pas encore suffisamment de recul.
On n'a pas mûri encore.
Tout ça n'est pas encore mûr.
Finalement, il y a une part de spéculation, finalement. Enfin, de spéculation, alors je dirais spéculation pas gratuite, mais il y a une part de spéculation sur l'existence de cette matière noire, de cette énergie noire. Il y a des ingrédients que l'on met parce que le modèle... et fonctionne mieux avec ça en restant dans un cadre théorique plausible, un cadre qui fonctionne bien, la relativité générale qui fonctionne bien par ailleurs dans tout un tas d'autres de ses conséquences. Donc est-ce qu'il n'y a pas une part finalement de... comment tu qualifierais la spéculation, le rôle de la spéculation, de l'imagination dans une théorie qui décrit l'univers dans laquelle on est rédhibitoirement à l'intérieur et sans aucun moyen de se déplacer à l'échelle de l'univers?
Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai dit au départ. Ouais. C'est dès qu'on a une théorie physique, tant qu'elle marche, on doit prendre ses conséquences au sérieux et on doit la pousser le plus possible. Si cette théorie nous dit qu'il existe de la matière noire et cette énergie sont dans l'univers et qu'on est capable, à partir de ça, de déterminer ses caractéristiques physiques, on doit accepter qu'elles sont là et on doit tout faire pour créer des tests et des expériences capables de prouver qu'elles existent vraiment.
Mettre en défaut. Voilà. Le travail finalement du cosmologiste, c'est mettre en défaut le modèle.
C'est
pas le valider, c'est le mettre en défaut.
Oui, tout à fait.
L'espoir, ce serait de le mettre en défaut.
On ne peut exclure que des modèles. On ne peut pas prouver qu'un modèle est juste. Donc, parce qu'on est parti sur un certain nombre d'hypothèses. Donc, à partir de ça, on a une histoire de l'univers. On va reconstruire des histoires. Et on est intéressé par connaître quelle est l'histoire la plus probable, étant donné toutes les observations que l'on connaît et toute la connaissance qu'on a de la physique. Et c'est ça qu'on va appeler notre modèle cosmologique. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. Il y a des choses que l'on affirme et qui ont une certaine probabilité ou certains degrés de crédibilité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste venir dire l'univers est comme ça. En fait, c'est ça la grande difficulté. Parce que quand on en parle dans les journaux, on vous demande il est comment l'univers. Donc on vous demande des certitudes. Alors que ce que vous avez à un moment, c'est que vous avez un modèle. Il y a des choses qui sont certaines. Par exemple, l'expansion de l'univers, ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est... On a plein de preuves de l'expansion de l'univers. Mais sur un certain nombre de points, il y a un degré de crédibilité qu'il faut être capable de quantifier, que l'on fait en construisant des modèles alternatifs, en les comparant aux observations, en regardant des extensions des théories physiques que l'on connaît actuellement, qui sont justifiées par les théories qui sont en gestation, en particulier pour les théories de gravitation quantique. Mais à aucun moment, on peut affirmer que c'est juste comme ça. C'est juste l'explication la plus probable, étant donné tout ce que l'on connaît. Et je pense qu'il ne faut pas aussi attendre trop de la science. C'est-à-dire que la science physique est exactement ça. Elle se confronte au réel. Elle ne cherche pas une réponse ultime. Elle cherche une réponse à un instant donné qui est la meilleure explication, étant donné toutes les théories que je connais et toutes les observations que je suis capable de faire. D'accord. Et on ne demande pas plus. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas bien, en fait, par rapport au, je veux dire, à la société. C'est-à-dire que souvent, on attend des réponses fermes. On pense que la science est là pour donner des certitudes. Et sur certaines questions, il n'y a pas de certitude que l'on peut donner. On sait qu'on a eu des explications qui sont changées. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on peut prendre ce modèle et dire « Ah, le Big Bang, c'est du délire de physicien. On n'y croit pas parce que ce n'est pas le sens commun. » Parce que tout ce qui est établi là, c'est pour l'instant les seules choses qui fonctionnent avec toutes les théories que l'on connaît. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire...
Une cohérence maximum, finalement, entre tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a observé, c'est tout ce qu'on a expérimenté. On a construit finalement une description qui est la plus cohérente.
C'est ça. Et surtout qui explique des phénomènes qui sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste expliquer les supernovas. Donc il y a des gens qui vont vous faire des modèles en disant « Ah oui, oui, l'énergie, la constante cosmologique, c'est n'importe quoi. C'est une invention de physicien, théoricien, de cosmologie. Mmh. Et moi, j'ai mon modèle blablabla, qui fait ça. » Mais en fait, ce modèle, il explique que ça. Et donc le problème, c'est que c'est les gens qui proposent ça ne regardent pas la cohérence de l'ensemble. Et ce qui est important quand on fait de la cosmologie, c'est de regarder la cohérence de l'ensemble et d'expliquer à la fois tous ces différents types d'observations, parce que expliquer à la fois la distribution des galaxies, le fond diffus cosmologique, les supernovas, les champs de vitesse, c'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle. Et en fait, les gens dans les laboratoires passent leur temps à créer des modèles alternatifs et à les tuer. On ne vous en parle pas, mais on passe notre temps à dégommer des modèles parce que c'est exactement le but, c'est de voir à quel point on peut faire autrement. Et le seul rêve, souvent on me dit oui, il y a une orthodoxie, tout le monde pense pareil. Mais en fait, dans les laboratoires, c'est l'inverse, c'est l'anarchie. Tout le monde aimerait trouver un modèle qui n'est pas celui-là et qui fonctionne, parce que c'est la gloire.
Ah, c'est la gloire.
C'est la gloire. Donc, quelque part, s'il y a une sorte, on a l'impression que tout le monde dit la même chose, qu'il y a une certaine orthodoxie, c'est que pour l'instant, personne n'arrive à faire différemment. Et c'est pas que les gens cherchent pas dans des voies complètement. Folle, parce que si vous regardez les publications scientifiques, il y a des trucs vraiment fous. Quoi. À côté de ça, la science-fiction, parfois, c'est très conservatif.
Donc, alors, voilà. On avait dit 40 minutes et 20 minutes. Ouais. Finalement, ça va être plutôt 50 minutes et 10 minutes. C'est pas grave, c'était passionnant. Enfin, moi, en tout cas, j'espère pour vous aussi. Vous êtes tous là encore. Alors, on va prendre peut-être quelques questions. Je ne vois rien du tout dans la salle, mais il doit y avoir... Je suis sûr qu'il y a des questions, mais je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour passer le micro éventuellement. Voilà, il est là-bas. Il y a une jeune fille là-bas avec le micro, super. Donc on prend vos questions pour Jean-Philippe dans les 10, 12. On va déborder un peu discrètement, mais pas trop. Minute qui reste.
Petite question. Il me semble qu'il y a une sonde envoyée par les hommes il y a quelques décennies qui. Alors je ne sais pas si elle a dépassé les limites de notre galaxie ou en tout cas elle est rendue très très loin, comme jamais on l'a observé. Donc est-ce que ça va nous aider à mieux comprendre justement la répartition des galaxies et l'univers ? Et j'ai pas trop compris si l'univers n'est pas une forme finie, quelle est sa nature et qu'est-ce qu'il y a autour en fait. C'est assez matérialiste hein, comme question, mais bon.
Ah, vous avez raison. Il faut se poser ce genre de questions. En fait, on a le droit de se poser toutes les questions. Le problème, c'est de bien les poser. C'est en général ça la difficulté. Alors, la première question sur cette sonde, ça doit être Voyager. C'est la sonde Voyager. Donc, elle est pas sortie de notre galaxie. Elle est juste sortie du système solaire. Donc elle a dépassé. Roland, tu sais un peu mieux que moi, j'imagine, ce genre de choses. Mais elle est sortie du système solaire il y a quelques années.
Sa position change à chaque seconde, hein, parce qu'elle se déplace, je crois, à 14 ou 15 km par seconde. Mais elle est franchie les limites du, ce qu'on appelle les limites du système solaire, qui serait une définition. Disons, on estime qu'elle a franchi les limites du système solaire, où elle est passée dans un milieu dont la composition est essentiellement interstellaire et non plus solaire. En août 2012, elle était à 107 ou 108 unités astronomiques, 107 ou 108 fois la distance Terre-Soleil, et maintenant elle est à 112 ou 113, donc elle, voilà, une progresse. Et dans 80 000 ans, elle atteindra une étoile relativement. Elle atteindrait, si elle l'a visée, l'étoile la plus proche en à peu près 80 000 ans. C'est vous dire la distance qu'il lui reste à franchir pour atteindre des distances interstellaires. Donc elle est sur la Terre, quoi. Vu de l'univers. Elle vient à peine de quitter la Terre, quoi.
Donc ça, c'est le genre de choses qui, pour quelqu'un qui fait de la cosmologie, n'apporte aucune information. D'accord. Donc, bien sûr, on veut comprendre la structure des galaxies. Il y a des gens qui travaillent sur la structure de notre galaxie. Mais je veux dire que les gens qui s'occupent de l'univers dans son ensemble, l'élément le plus petit, c'est la galaxie. En dessous de la galaxie, galaxie, les points sont des galaxies.
La galaxie est un point. Donc voilà. Tout ce qui est sous la galaxie, on n'en parle même pas.
Ouais, on commence à le faire, c'est-à-dire que les gens qui font des simulations numériques maintenant arrivent à comprendre un petit peu comment se structurent les galaxies, mais en gros, on ne s'intéresse pas tellement à ça. Donc ce genre d'information n'est pas très, très importante pour nous. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était, il y avait un truc sur...
L'univers infini ou
l'univers. Alors la question maintenant, c'est... est-ce que l'univers est fini ou infini? Donc Einstein, je vous dis, il a fait un univers qui est mathématiquement été fini. On peut construire des univers qui sont finis, des univers qui sont infinis. Et on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on peut prouver qu'il est fini ou qu'il est infini. Alors on pourrait prouver qu'il est fini par certaines observations. On a travaillé beaucoup avec Roland il y a 15 ans, 14 ans, je ne sais plus, sur ce genre de questions. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas voir tout l'univers. On ne voit qu'une petite partie de l'univers. Et la raison est la suivante, c'est que on a dit que la lumière se propage à la vitesse de la lumière, donc qui est une vitesse finie. Et comme l'univers devint plus chaud et dense dans le passé, il y a un moment où la matière qui est contenue dans l'univers est sous une forme ionisée, une forme de plasma. Et il faut savoir que la lumière interagit très fortement avec les plasmas. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un nuage à un moment. C'est-à-dire si vous regardez dans le ciel, s'il n'y a pas de nuage, vous pouvez voir les étoiles. Et s'il y a un nuage, eh bien la lumière ne peut plus traverser ce nuage. Et donc vous ne voyez pas au-delà de ce nuage. Et donc le fait que la matière change d'état dans le passé fait qu'on ne peut pas faire d'observation avant ces fameux 380 000 ans avant le Big Bang. Et donc on est limité à observer sur toutes les galaxies qui sont plus proches que cette limite là, et donc on ne peut pas avoir accès à l'univers dans son ensemble. Donc on ne voit qu'une petite partie de l'univers, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prouver que l'univers est infini. On peut juste mettre des contraintes sur la taille de l'univers le plus petit qui serait compatible avec nos observations.
En même temps, le modèle standard dont tu parlais tout à l'heure, il suppose que l'univers est infini. C'est-à-dire, il décrit finalement, pour bien décrire l'univers observable, ce que tu décris dans cette sphère où l'on a accès à de l'information, il a un modèle qui, finalement, parle de zones qui ne sont pas dans l'univers observable. Il nous dit qu'il y a des choses qui se passent au-delà et auxquelles on n'a pas accès par l'observation directe.
Tout à fait. Mais si on lui donnait une structure topologique, oui. Par exemple, si vous prenez ta feuille et que tu faisais un tore avec, par exemple.
Comment je fais ça?
Donc, vous imaginez une surface plane. Elle pourrait continuer à un plan mathématique, c'est infini, hein, dans toutes les directions. Mais vous pouvez imaginer que vous coupez comme ça et puis que vous identifiez. Vas-y, fais-moi un tore. Un cylindre. Ouais. Le tore, ça va être difficile avec le papier. Voilà, un cylindre. Donc là, vous voyez, dans cette direction-là, c'est fini, d'accord, l'espace. Mais en fait, localement, c'est exactement le même espace. Et si la taille de l'univers observable est petite comme ça, eh bien, j'ai aucune chance de mettre en évidence cette structure-là. On peut la mettre si cette structure est plus petite que la taille de l'univers observable. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, on a des contraintes sur la taille minimale qu'aurait un tel univers, et on sait que c'est plus grand que la taille de l'univers observable. Et on ne peut pas prouver si l'univers est infini ou fini. Voilà. Donc ça, c'est parmi des questions. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des questions qui sont des questions, au départ, je veux dire, métaphysiques, qui pendant un moment deviennent des questions de physique parce qu'on va pouvoir tester. Puis il y a un moment, on montre qu'on ne va plus pouvoir tester et que la question va rester en suspens. Et donc, ça devient une question de métaphysique. Je peux donner des arguments qui viennent de certaines théories de physique théorique, comme l'inflation, comme la théorie des corps, tout ce qu'on veut, sur le fait qu'ils doivent être finis ou infinis, mais ça n'en reste que des arguments théoriques, et ce n'est pas une preuve de la finitude ou de l'infinitude.
Il peut y avoir des questions qui partent, qui sont quand même à l'origine métaphysique, disons, qui deviennent des questions de science, parce que physique, au sens où on va pouvoir espérer mesurer, vérifier par une observation, une expérimentation, et trouver la réponse à cette question, et en fait, des questions qui restent en suspens, d'une certaine façon. Finalement, on pensait, et puis finalement, non. Elle reste là, en l'air, et on n'a pas de réponse.
Voilà. Mais il faut admettre qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je pense que c'est ça aussi. Souvent, quand on commence à on va pouvoir répondre à tout si on travaille suffisamment. Il y a des fois, même si vous travaillez beaucoup, vous ne pouvez pas. C'est comme ça. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y avait besoin du bord et du tour? Et ça, alors ça, c'est un grand problème de mathématiques. Si vous prenez la surface d'un ballon, donc c'est ce qu'on appelle une sphère. Ça, c'est une surface à deux. Vous voyez tous ce que c'est la surface d'un ballon. La forme n'est pas importante, ça peut être rugby ou football, comme vous préférez. En ce moment, c'est plutôt rugby.
C'est plutôt rugby en ce moment.
Même si c'est un peu en deuil, mais bon, c'est comme ça. Bref, vous prenez la surface. Donc, vous posez la question de savoir comment je décris cette surface. Et c'est vrai que quand vous la visualisez, cette surface qui est une surface à deux dimensions, vous la voyez, vous, dans un espace à trois dimensions. Donc, on a tendance à décrire cette surface comme un sous-espace d'un espace plus grand, qui est un espace à trois dimensions. Mais en fait, on s'est rendu compte, et le premier à l'avoir fait, c'est Gauss, un mathématicien allemand, qu'on pouvait décrire la surface d'un objet sans faire référence à un espace extérieur. D'accord ? On peut la décrire de façon intrinsèque, en donnant une géométrie à la surface de la sphère. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Quand je vous parle de mon espace-temps qui a quatre dimensions ou un espace à trois dimensions qui est en train de se dilater, eh bien, je n'ai pas besoin de faire référence à un espace plus grand dans lequel cet univers vivrait. En fait, il se suffit à lui-même d'un point de vue mathématique. Et s'il se suffit d'un point de vue mathématique, je n'ai pas besoin de supposer l'existence physique d'un espace plus grand pour le faire vivre. Voilà, c'est juste comme ça.
Donc, il n'y a pas d'extérieur à l'univers.
Il n'y a pas d'extérieur à l'univers.
Plusieurs, ça conclut ça comme ça. Il n'y en a pas besoin.
Il n'y en a pas besoin.
Il n'y a pas besoin d'un point de vue de Dieu, finalement. de quelqu'un, voilà, c'est d'un être. Enfin, oui, je dis ça, c'est une façon.
T'as pas besoin de regarder l'univers de l'extérieur.
T'as pas besoin de se mettre du point de vue d'un extérieur de l'univers pour le voir. On peut le décrire uniquement en restant à l'intérieur.
Alors c'est vrai qu'après, dans les livres, il faut faire des représentations et en général, c'est ce qu'on fait. On fait des dessins parce que là, pour faire un dessin, il faut se le mettre dans un espace extérieur qui est la page du livre. Et c'est ce qui nous donne une intuition, mais en fait, on devrait apprendre à avoir des intuitions intrinsèques. Être des fourmis sur des surfaces et arriver à décrire le ballon sans avoir besoin de le voir de l'extérieur.
C'est ce qui s'est passé pour la Terre. On n'a pas eu besoin d'envoyer des satellites autour de la Terre pour comprendre qu'elle était ronde, finalement. Ah ouais, on a pu le comprendre en restant collé comme des nœuds à la surface de la Terre. Ouais. Et depuis l'Antiquité, on sait ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des grands moyens techniques. Ouais. On va peut-être prendre une autre question quand même, pour pas qu'il n'y en ait qu'une seule. J'ai envoyé plein. Donc je suis sûr qu'on va faire des frustrés de toute façon. Mais Jean-Philippe est encore là, aujourd'hui, demain, pour répondre à vos questions quand vous le croiserez.
Oui, moi je voudrais juste savoir, du coup, le Big Bang évoque un peu une explosion avec un centre. Dans quelle direction on regarde pour voir les lumières originelles à 380 000 années après ?
Voilà, donc vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. On pense, d'accord ? Mais c'est pas parce qu'on pense que c'est, d'accord ? Donc il faut quand même rappeler que c'est vrai que le mot Big Bang, au départ, c'était une plaisanterie. C'était pour se moquer de ces modèles où l'univers était en expansion. C'est Fred Hoyle qui a sorti ça. C'était une émission radio avec Georges Lemaitre. Et donc c'est vrai que le côté explosion, quand on voit une explosion de n'importe quel, je sais pas, pétard, n'importe quoi, ça a un centre et ça explose, et donc on a une onde sphérique. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une, je ne sais pas s'il faut appeler ça une explosion, mais quelque part, et ça c'est pas décrit dans le modèle, parce que j'ai pas le modèle de l'origine de mon univers, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du modèle, mais c'est que l'espace à trois dimensions apparaît partout en même temps, d'accord, c'est ça, donc c'est pas à partir d'un point, ce qui veut dire que votre rayonnement il est exactement le même dans toutes les directions, et ça c'est ce qu'on observe, d'accord. Mais quand est-ce qu'on pourrait trouver des exemples de la physique ordinaire dans lequel on a une explosion qui serait, par exemple, selon une ligne ou selon un plan ? On peut faire ça.
Il faudrait, j'imagine, distribuer, enfin, réfléchir à la façon dont tu distribues les explosions. J'ai aucune idée.
Mais là, dans ce modèle-là, c'est vraiment l'espace tridimensionnel. Donc, en fait, il y a quelque chose d'assez magique. Hein. Cette surface du Big Bang, il ne faut pas la prendre. Donc, déjà, il ne faut pas la prendre comme quelque chose de physique. Parce que j'ai pas dit ça. On a l'univers, on en fait un modèle, d'accord ? Donc ça, le modèle, c'est la description de l'univers. Donc il ne faut jamais confondre l'objet et la description de l'objet. Ça, c'est des choses, c'est la première chose. Et donc, on a une description qui est un modèle mathématique, et je l'extrapole de plus en plus loin, et puis à un moment, ça donne zéro, d'accord ? Mais ça, c'est dans l'extrapolation du modèle. Donc le Big Bang, c'est une propriété du modèle, ce n'est pas une propriété de l'univers. Il est fort probable que quand on s'approche de ce moment où on a l'impression qu'on va trouver zéro ou 1 sur 0... et donc on a l'impression qu'il y a comme avant un certain temps il n'y avait rien et ensuite il y a un univers, en fait c'est simplement parce qu'on est à des échelles de densité et de courbure qui sont telles que la gravitation telle qu'on la connaît aujourd'hui, la théorie de la relativité générale, ne s'applique plus.
C'est cette collision de théorie dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est un moment où pourrait y avoir cette collision de théorie dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement. Et donc ce qu'on appelle la singularité initiale, on sait qu'il va falloir la décrire avec une théorie de la gravitation quantique, et là dans les modèles type théorie des corps, théorie à boucle, les gens ont des explications sur ce qui se passerait pour ces singularités, et il n'y a plus de singularité, donc on arrive à aller plus loin dans le modèle. Mais bien sûr, comme ces théories ne sont pas validées, on a 5, 6 explications différentes, donc je ne veux pas vous en parler parce que ça ajouterait
c'est
de la confusion à la confusion.
Voilà, là, c'est fini.
Mais ce qu'il faut se dire, c'est simplement, il ne faut pas lui donner une existence physique, il ne faut pas dire qu'on a prouvé l'existence du Big Bang, il faut dire qu'on a un modèle qui marche très bien et quand on l'extrapole, il nous dit qu'il y a un Big Bang. Voilà. Et ça veut probablement dire que c'est le modèle qui ne marche plus à ce moment-là.
Exactement. Voilà. Bon, merci à toi, Jean-Philippe. Merci à vous pour vos questions, votre présence
merci
nombreuse. Et on va laisser la place à la table ronde suivante hein, pour pas être dans le retard et dans le décalage temporel. Parce que le décalage temporel, il y en a eu là. On en a fait un certain nombre. Merci à vous encore.